RCF.
Pauline Géricault, Catherine Masson, ce sont donc deux vocations à la fois. Une vocation contemplative et une vocation à agir, une vocation d'action. Et on peut dire qu'elle va arriver à tenir les deux, même si vous avez indiqué une tension dans son parcours. Il faut s'arrêter sur ce qu'elle a fait, les œuvres. Parce que c'est vraiment très important et c'est ce qui nous reste en particulier d'elle aujourd'hui, en commençant par ce qu'on appelle la propagation de la foi. De quoi s'agit-il ?
Alors, toute petite déjà, elle avait avec son frère, Phileas, le souci des missions étrangères. Des missions à l'extérieur,
À
l'étranger. Et donc, et en particulier de la Chine. Ils rêvaient à deux de la Chine. Et donc, ils disaient, on va partir tous les deux en Chine. Et puis, lui, il lui disait, tu peux pas, t'es une fille. Et puis, elle répondait, toi, t'iras. Et moi, je prendrai un grand râteau et je ramasserai des sous. Alors, c'était drôle parce qu'elle disait ça enfant. Et en fait, elle va le faire. Bon. Et on est dans un contexte où les missions lointaines se renouvellent très fort au moment de la Révolution et après la Révolution. Et donc, Pauline a un souci avec son frère. C'est de trouver de l'argent pour les missions et puis d'informer sur ce qui se passe dans les missions. Or, son frère Phileas va rentrer au séminaire et va aller suivre son séminaire à Paris et donc être très en lien avec les missions étrangères de Paris. Et donc là, il retrouve son goût pour la Chine. Il apprend qu'on a besoin de prêtres pour la Chine, qu'on a besoin d'argent, qu'il y a de l'information à faire circuler, etc. Et donc, il met en route sa sœur. Et sa sœur, elle avait un génie particulier de l'organisation. Et donc, elle va entendre parler de quelque chose qui existe et qu'elle n'a pas inventé, qu'on appelle le sou hebdomadaire, c'est-à-dire le fait de dire aux gens « on a besoin d'argent, vous donnez pas grand-chose, vous donnez un sou, vous le donnez chaque jour ». Ça partait d'un mouvement anabaptiste en Angleterre et il donnait un sou, alors on le mettait dans un tronc, à l'église, à l'école, dans une boutique.
Une quête, quoi.
C'était une sorte de quête qu'on donnait, comme ça, là où on trouvait des troncs. Un sou par semaine. Et donc, Pauline commence à faire ça, avec ses réparatrices.
Alors, à Lyon, toujours.
À Lyon, toujours à Lyon.
Et donc, auprès de qui se met-elle à quêter ?
Alors, avec ses réparatrices, donc les ouvrières de son quartier qu'elle a embauchées, celle de l'usine de son beau-frère, là, à Saint-Vallier, qu'elle embauche aussi, et elle quête dans son quartier, puis dans d'autres quartiers et d'autres paroisses de la ville de Lyon. Mais elle trouve que tout ça, ça manque un tout petit peu d'efficacité et elle réfléchit, elle se dit comment on pourrait mieux quêter. Alors, la quête au départ, pour elle, c'était simplement les réparatrices qui quêtaient de la main à la main. C'était déjà plus les troncs. On quête de la main à la main. Mais ça manquait d'efficacité. Et un jour, elle a une idée absolument géniale. C'est de dire à ses réparatrices de s'organiser par 10. Donc on organise des dizaines, une réparatrice va quêter pour 10, puis 10 vont se mettre ensemble, puis encore 10, donc on va faire les dizaines, les centaines, les mille, et on ramasse comme ça un sou par semaine de la main à la main.
La suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
Et ça se diffuse comme ça, ça s'étend comme ça par circonvolution.
Voilà,
sorte.
Alors très vite, elle fait un mille, puis très vite, il y a un deuxième mille, mais c'est beaucoup, c'est très important, mais c'est pas grand-chose par rapport à ce qui est demandé. Alors, je cite un nom ici parce qu'il va avoir de l'importance par la suite. Le deuxième mille, elle le confie à Victor Giraudon, qui est un ami de son frère, qui va jouer un rôle dans la suite. Mais pendant ce temps-là, à Paris, on dit, bon, c'est bien, vous nous ramenez ces sous, mais c'est pas assez. Et les missions d'Amérique, qui ont des gens insérés à Lyon, disent « nous aussi, on voudrait ». Et là, on va aller chercher un certain Benoît Coste, qui est le fondateur de la Congrégation des Messieurs. On disait de lui qu'il était l'homme à tout faire de l'église de Lyon. Et on lui dit « faut nous aider à trouver de l'argent pour la Chine, il faut nous aider à trouver de l'argent pour l'Amérique ». Et lui dit « oui, mais moi je peux pas, je sais pas, puis on va pas faire d'état d'œuvre, et puis il faut aussi de l'argent pour l'Église de France, donc la Chine, l'Amérique, la France, etc. Moi je veux bien faire quelque chose pour une œuvre universelle. Donc il se positionne comme ça, et pendant ce temps-là, les Géricault, Giraudon et autres, et puis ceux qui sont pour l'Amérique, eh ben, ils attendent et ils se disent comment on peut faire pour avoir plus d'argent.
Et quel est le rôle de Pauline là ?
Alors, Pauline, pour l'instant, elle s'occupe de son mille. Et son rôle, il a été important parce que il a permis que ça démarre. Alors, après, son rôle va un peu à la fois disparaître. C'est-à-dire que le Benoît Coste en question, il est tellement sollicité par les gens qui viennent d'Amérique qu'il finit par organiser une réunion. Et à cette réunion où ne sont invités que des messieurs, c'est la congrégation des messieurs, il invite Victor Giraudon. Victor Giraudon, qui a qu'une vingtaine d'années, qui dit « j'étais là comme un hors-d'œuvre », qui est invité avec des grands messieurs de Lyon, dont son patron d'ailleurs, qui oubliera même que Giraudon était là. Et quand on parle des missions de tous les côtés, que Coste dit une mission universelle, eh bien, Giraudon, on lui dit, mais elle fait comment, Pauline? Vous faites comment? Et donc, il explique l'organisation en dizaines, centaines et mille. Et tout le monde dit, c'est absolument génial. Et donc, ils adoptent l'organisation de Pauline, ils adoptent le nom qu'on avait donné à l'association des MEP, Association pour la propagation de la foi.
Les MEP, ce sont les
Missions étrangères de Paris. Et ils adoptent aussi le patronage de Saint-François-Xavier, c'est-à-dire tout ce qui caractérisait l'œuvre de Pauline. Ça va prendre une diffusion absolument extraordinaire à travers le monde entier.
Ça veut dire que ça lui échappe à elle ?
Ça lui échappe complètement parce que pour deux raisons. Une, elle est malade. Elle est partie se reposer à Saint-Vallier chez sa sœur. Donc, de toute façon, elle n'est pas à Lyon pendant que ça se passe. Mais même si elle avait été à Lyon, elle n'était pas invitée. Il n'y a pas de dame invitée à cette réunion. À l'époque, les dames peuvent avoir... Il ne faut pas se tromper au niveau de la place de la femme. Elles ont un rôle, elles peuvent avoir des œuvres et elles vont être soutenues par les hommes, les clercs, etc. Et à ce niveau-là, ça existe à ce moment-là. Mais par contre, une réunion de messieurs, il n'y a pas de dame. Et cette organisation, au départ, c'est une organisation essentiellement laïque et masculine. Et donc Pauline n'y trouve pas sa place et elle va laisser faire.
Elle se retire.
Elle se retire et elle se retire dans le silence, d'autant plus aussi à ce moment-là que son directeur de spirituel, l'abbé Wurtz, dit « mais non, mais vous n'êtes pas fait pour toute cette action, vous êtes fait pour la vie contemplative, restez chez vous » et donc elle se retire. Et comme elle se retire et qu'elle se retire dans le silence et qu'elle va rester dans le silence pendant une bonne vingtaine d'années, on va oublier le rôle qu'elle a pu jouer à l'origine de la propagation de la foi, qui est née, je pense qu'il faut le dire parce qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus, on va sans doute pas rentrer dans ces débats, mais aujourd'hui on reconnaît que ça n'aurait jamais eu cette extension-là sans l'idée de Pauline et que ça n'aurait jamais eu non plus cette extension-là si les messieurs s'en étaient pas emparés. Il fallait les deux.
Catherine Masson, qu'est-ce que Pauline Géricault fait de ce temps de solitude, de silence et de retrait ?
Un temps très, très, très difficile pour elle. On pourrait le résumer par quelque chose qu'elle a écrit en disant, moi, je comprends pas. Dans l'Évangile, Jésus nous dit qu'il faut s'aimer les uns les autres et nous appelle à la charité. Et moi, on me dit que je dois pas aller m'occuper de tous les malheureux à l'hôpital, les pauvres dans la rue, etc. et que je dois me contenter de prier et d'écrire. Et comme elle est docile à l'action de son directeur spirituel, dont on peut penser qu'il manquait quand même un peu de discernement à cette époque-là. Il était embringué dans des tas d'histoires de voyants dans lesquelles j'étais très impressionnée de lire cette période-là de Pauline. On pense pas qu'on peut en parler ici, c'est trop compliqué, mais il l'entraîne dans des histoires très bizarres de voyants, dans ses combats ecclésiastiques pour le diocèse de Lyon. Il l'entraîne dans tout ça. Elle sait lire et écrire, alors il lui fait écrire pour les autres. Bon. Et elle est très malheureuse pendant cette période-là. Elle elle ne comprend pas ce qu'il lui veut, il l'écoute à peine, il l'envoie promener et il lui dit que de toute façon elle est faite pour la vie contemplative.
Ça dure combien de temps?
Et ça va durer environ 4 ans jusqu'à la mort de l'abbé Wurtz en 1826. Alors, ne nous trompons pas sur leur relation, elle est très proche de lui et elle va l'accompagner. Il est interdit de prédication à la fin de sa vie et il se réfugie à Collonges chez le père de Pauline. Et elle l'accompagne dans ses derniers jours et elle est perturbée par sa mort. Mais en même temps, elle est libérée. Elle est quelque part, elle est rendue à elle-même et à sa possibilité d'agir. Alors, le temps de retrait n'a pas été sans fruit.
C'est-à-dire, justement, qu'est-ce qu'elle retire de ce temps d'épreuve, finalement?
Alors, elle en retire beaucoup de choses. Elle en retire que ça lui a permis de voir clair, finalement, dans sa vie et de comprendre ce à quoi elle était faite et de pouvoir s'y lancer une fois qu'elle était libre. Ça lui a permis de beaucoup écrire et elle a entre autres écrit un petit livre qui a été réédité depuis les années 2000. Donc, c'est intéressant de penser quand même qu'on a pu rééditer et qui est lisible, qui s'appelle « L'amour infini dans la divine Eucharistie » et qui dit vraiment sa dévotion à l'Eucharistie. Et puis d'autres choses, des liens qu'elle a eus, etc., qui font que cette période n'était pas sans fruit.
Elle fréquente beaucoup les sacrements?
Ah oui, j'en ai pas parlé dans la première partie et je crois que c'est très important de le dire. Dans son enfance, il y a eu un moment très important, c'était sa première communion. Et qu'elle a vécu avec beaucoup de scrupules parce que à l'époque, on se confessait beaucoup, on communiait peu. Son directeur spirituel l'invite à communier tous les jours. Et donc, elle a fini par communier tous les jours et pour elle, c'était quelque chose d'absolument essentiel que de communier tous les jours. Elle se confessait également beaucoup. Avec sa communion, elle a reçu la confirmation également. Mais l'Eucharistie est quelque chose d'absolument essentiel dans sa vie.
À demain. Merci beaucoup, Catherine Masson.
À demain.